Le ministère presbytéral dans la mission de l'Église, c'est le thème de cette conférence que nous vous proposons d'entendre, conférence donnée par le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, enregistrée le 30 septembre dernier lors du congrès Mission à Paris. Nous écoutons le cardinal Jean-Marc Aveline.
Évidemment, je remercie les organisateurs, etc., etc., tout ce qu'on dit, puis je suis heureux de passer ce moment avec vous. Mais, puisque c'est Pagnol, je vais commencer par une histoire. Du coup, parce que c'est Pagnol. Alors figurez-vous que ça se passe dans la chambre de Maître Panis. Maître Panis, il est mourant, il est alité, il n'en a plus pour longtemps. Et à Marseille, quand c'est comme ça, on dit « Oh, il est fatigué, hein. Il est bien fatigué, il est bien fatigué. » Alors, sachant qu'il va bientôt mourir, César, qui est un ami quand même, va voir le curé, Elzéar. C'est pas souvent que César va voir le curé. Alors il arrive, il lui dit, voilà, il y a Panis, il va mourir, il est fatigué, ce serait bien que tu passes. Mais enfin, il ne faut pas passer avec tout le tralala et les clochettes et tout ça, parce que déjà qu'il ne va pas bien, s'il te voit comme ça, ça risque de le faire mourir plus vite. Alors Elzéar lui dit, comment tu veux que je fasse, moi je... Alors il vient quand même, Elzéar, avec l'enfant de cœur, et puis, arrivé en bas, il monte tout seul, il laisse l'enfant de cœur à la cuisine, où il y a Honorine, et Honorine, elle lui fait un café au lait, et elle lui prépare les tartines. Et lui, César, il monte dans la chambre. Dans la chambre, il y a donc... Elzéar monte dans la chambre. Et puis alors, dans la chambre, eh bien, il y a Panis qui est allongé. Alors évidemment, quand Panis, il voit Elzéar, il dit, ah ben, c'est bien, tu fais bien de venir, enfin, il comprend, c'est bien, puis c'est vrai que j'ai des choses à dire, c'est bien, bon, on va le faire, on va le faire. Et alors, dans la chambre, il y a donc Panis, Elzéar le curé, César, et puis il y a aussi Escartefigue. Alors, Elzéar, il dit, bon, ben voilà, il faut faire la confession. Alors, Panis, il dit, oui, mais c'est que moi, j'ai pas l'habitude. Alors Elzéar dit, tu vas voir, c'est pas compliqué, il donne le petit livre à Escartefigue, et c'est le livre où comme ça tu vas lire les commandements. Alors Escartefigue lit les commandements, et à chaque commandement, Panis il dit, ben voilà, j'ai plus ou moins respecté, etc., etc. Ça commence comme ça. Alors le premier commandement, bon ça va, le deuxième... Alors évidemment, on arrive au commandement fatidique. Et alors, le César et le Escartefigue, ils sont tout contents d'écouter ce qui va se dire. Seulement, voilà qu'Elzéar, arrivé à ce commandement, il leur dit, non, maintenant, il faut que vous sortiez. Alors, évidemment, ils sont pas contents, mais enfin, ils sortent. Alors, on laisse Elzéar avec Panis et on suit César et Escartefigue qui descendent. Ils arrivent à la cuisine. Alors, Honorine, elle dit... Eh bien, moi, je suis bien contente, hein, parce que Panis, eh ben, c'est bien, il va nous faire une belle mort. Comme ça, il est bien préparé. Alors, César, il dit, ouais, il est bien préparé. Bien sûr, il est bien préparé, il va faire la belle mort. Seulement, il est préparé au goût du bon Dieu d'Elzéar, enfin, le nôtre, quoi. Et si c'était pas le bon? Ouh, elle dit, Honorine, qu'est-ce qu'il y a, César? Qu'est-ce que vous dites là? Et il s'assoit et puis il dit, ben voilà, moi, au bar là-bas, je connais plein de gens qui ont des bons dieux que ce n'est pas le nôtre. Et il y en a que chez eux, une bonne action, c'est un péché chez nous, et vice-versa. Et puis des bons dieux au bar, j'en vois défiler beaucoup avec les gens. Il y en a qui ont un dieu comme celui qui a le gros ventre chez l'antiquaire. Les autres, ils ont un dieu qui a autant de bras qu'une esquinade. « Mais qu'est-ce que tu dis, César ?» lui dit Escartefigue, et il se sert un pastis. Et César, il dit, « mais oui, tu te vois, il se penche vers Escartefigue. » Il dit, « Tu te vois, toi, déjà fatigué de ta mort, tu montes là-haut, et au coin d'un nuage, tu te trouves un bon Dieu que tu connais pas, qu'on t'a jamais présenté, tu lui fais des prières, il comprend pas, tu lui dis des choses, il te dit rien, et après il te dit quoi, et puis il te le dit en chinois. » Enfin, Elzéar me dit, tu me donnes le grand fils, frisson, il se resserre le pastis. Honorine, elle dit, mais vous n'avez pas honte, César, de dire ça, surtout d'en faire la femme de cœur, qui n'a pas encore fini les tartines. Si vous alliez un peu plus à l'église, au lieu de rester dans votre bar, vous sauriez, César, qu'il n'y a qu'un bon Dieu, et que c'est le nôtre. Alors César, il dit, et voyez, Honorine, je le sais, il n'y a qu'un bon Dieu, et c'est le nôtre. Mais alors, ça veut dire que sur Terre, il y a des tas de gens qui se font couillonner. Et moi, ça, ça me tracasse. Merci pour Pagnol. Alors, ça, du coup, ça vous introduit aussi à ce que je voudrais essayer de vous dire. En deux temps, ça va redevenir un peu sérieux quand même, en deux temps. Mais enfin, ça vous dit les choses, ça vous dit les choses essentielles avec les mots du langage courant, quoi. Hein. C'est ce qui est fort chez Pagnol. Alors, je voudrais vous dire deux choses. Moi aussi, du coup, ben, je me suis laissé tracasser par ces questions. À Marseille, vous ne pouvez pas ignorer la pluralité religieuse et tout ça. Et quand le séminaire où j'enseignais la dogmatique a fermé pour réunir les séminaristes dans un autre séminaire, l'archevêque de l'époque, qui s'appelait Coffi, Robert Coffi, m'a dit « Il faudrait que toi, tu cherches qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un institut de théologie à Marseille. » Alors moi, du coup, j'ai fait une petite enquête, j'ai regardé tout ça, j'ai consulté, et je lui ai dit, mais ce n'était pas un truc qui m'intéressait moi, je lui ai dit, voilà, je pense que si vous voulez faire un institut de théologie à Marseille, faites quelque chose qui prenne en compte et qui soit axé sur les questions, je ne lui ai pas dit les questions qui tracassent César, mais c'est les questions que pose à la foi chrétienne la pluralité des religions. À Marseille, on est bien placé pour voir que c'est important. Et Coffi me dit, ah ben c'est bien, parce que lui il était de Haute-Savoie, lui c'est pas la même chose. Hein. Il me dit, ah ben c'est bien, c'est une bonne idée, tu vas le faire toi. Je dis, mais moi je suis pas préparé, j'ai pas la formation, j'ai pas la compétence, et puis c'est pas un truc qui m'intéresse à première. Oui, mais tu vas le faire toi. Et alors j'ai accepté, parce que ce Coffi, chez nous, Coffi est arrivé après Etchegaray. Etchegaray, il parlait, on était, comment dire, on était presque comme chez nous. Et Etchegaray est parti, il arrive Coffi. On montait voir Coffi à l'archevêché, nous on parlait, et lui il disait rien. Et alors au début, ça vous fait un peu, quand on change d'évêque, c'est pas évident, hein. Et vous le savez comme moi, hein. Il disait rien. Alors bon, et puis en plus, il avait la pipe. Alors il avait la pipe, et quand on lui posait une question, qu'il ne savait pas trop quoi répondre, il prenait le machin pour tasser, et il avait le temps. Et nous, on n'est pas habitués à ça. Alors là, il me dit, bon, tu vas le faire toi. Mais je lui avais déjà fait confiance, parce qu'il m'avait demandé aussi d'enseigner au séminaire, alors que moi je m'avais dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je débutais, j'avais 26 ans. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je vous dis, je voudrais être aumônier de jeunes dans les quartiers nord à Marseille, parce que moi, j'ai grandi dans les quartiers nord, et c'est ça qui me plairait, m'occuper des jeunes dans les quartiers nord. Ah, il me dit, c'est bien, mais le père Pivot s'en va, il faut que tu le remplaces comme professeur de dogmatique. Et alors, mais qu'est-ce que vous voulez, j'avais 26 ans. J'ai dit oui, et puis il m'avait dit, mais le séminaire est dans les quartiers nord. Ce qui était vrai. Alors bon, et je l'ai fait. Et ça a été des années extraordinaires. J'ai passé 5 ans comme prof de séminaire. Et ces années-là, vous savez ce que c'est, certains, quoi. Enfin, puis on est tous passés par là aussi, de l'autre côté. Mais enfin, dans son ministère, prendre soin des jeunes qui s'interrogent si c'est bien ça ou pas ça, faire du travail de haute couture, parce que c'est quand même ça, il n'y a pas de cas pareil, quoi, voilà. Donc ça a été merveilleux. Et donc là, il me dit, fais ça. Alors je le fais, mais moi je me suis dit à ce moment-là, peut-être je peux retrouver, gagner un avantage, et je lui dis, bon, ben alors du coup, d'accord pour l'Institut, mais je vais habiter dans une paroisse des quartiers nord, et comme ça j'aurai tout en préparant ça. Ah, il me dit non, il faut que tu restes au séminaire. Je lui dis, mais le séminaire, mais il va être vide. C'était un grand séminaire, vous voyez, avec des grands couloirs, j'habitais au fond du couloir. Il me dit, mais non, il faut que tu restes habiter là. Alors je lui dis, mais vraiment ça ne me plaisait pas, quoi. Alors, après avoir tourné et viré, il finit par m'inviter à manger chez lui. Tout impressionné, j'arrive, je descends, nous mangeons tous les deux. Je me dis, quand est-ce qu'on va en parler? Il passe l'entrée, il passe le plat, on arrive au fromage. Bon. Alors je finis par lui poser la question. Et il me dit, ah non, 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 faut que tu restes habité là, faut que tu restes. Alors moi, je lui dis, mais vous vous rendez pas compte, je suis au bout du couloir, quand moi je vais ouvrir les volets le matin, d'habitude tous les volets s'ouvrent, là je serai tout seul au bout du couloir, dans cette maison. Et il me dit, non. Oh là là. Alors moi, je sors le dernier argument. Je lui dis, vous savez, moi, le célibat, c'est pas facile. Alors si vous me laissez tout seul là, au bout du couloir, je vous garantis rien. Après, je me suis dit, Aveline, qu'est-ce que tu viens de dire? Et lui, il a eu cette réponse. Il m'a dit, il prend la pipe, il me dit, ouais, je sais. D'ailleurs, moi, j'aurais du mal, mais toi, il faut que tu le fasses. Et là, ben, c'était l'argument qui m'a convaincu, si vous voulez. C'est que le type, il n'a pas essayé de me dire, mais non, tu vas voir, après on mettra du monde, tu resteras pas seul longtemps. Il m'a pas fait du cinéma. Il m'a dit, moi j'aurais du mal, mais toi, il faut que tu le fasses. Et aujourd'hui, comme évêque, je me dis, voilà un type qui avait du courage. Il n'a pas fait semblant de me dire, tu vas voir, c'est pas compliqué, tu verras. Non, 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 il m'a pas caché. Il m'a dit, moi j'aurais du mal. Mais toi, il faut que tu le fasses. Ça veut dire, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Et si je te le demande, ça vient de ma prière. Eh bien, aujourd'hui, je me le dis comme évêque. Je dis, il ne faut pas cacher aux prêtres quand c'est difficile. Tu peux leur dire, moi, j'aurais du mal. Mais j'ai prié pour toi. Et toi, il faut que tu le fasses. Alors voilà, c'est comme ça que je m'y suis mis. Je ne vais pas vous raconter la suite, je voudrais juste, dans le thème de qui est le nôtre, vous dire deux séries de choses. D'abord, ce qu'à travers ce travail, parce que du coup j'ai créé cet institut, j'y ai travaillé, etc. Demain, nous allons fêter à Marseille les 30 ans d'existence, c'est pas rien. Et puis, voilà. Et ça m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses et je voudrais rassembler pour vous ce que j'ai appris de tout ce travail, parce que ce travail n'a pas été qu'à Marseille, on m'a ensuite demandé, après d'avoir fait un doctorat que Kofi m'a demandé aussi, il m'avait dit dès que tu pourras, fais un doctorat, donc j'ai fait un doctorat. Et puis, tout ce travail, donc, on m'avait demandé aussi, l'archevêque de Rabat, de m'occuper de la formation permanente des prêtres au Maroc. Je l'ai fait pendant 7 ans. Pendant 7 ans, j'allais au moins 2 fois au Maroc pour travailler avec les prêtres, les rencontrer dans leur région où ils étaient, etc., etc. Puis après, on m'a demandé de travailler comme consulteur au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. J'ai travaillé avec, surtout après, vers la fin, avec le cardinal Thauran. Et puis le cardinal Poupart aussi m'avait demandé pour le Conseil pontifical de la culture de travailler à la formation des directeurs des petits centres culturels catholiques du pourtour méditerranéen. Ça m'a donné l'occasion d'aller dans quasiment tous les pays de la Méditerranée pour soutenir des tout petits centres culturels, une bibliothèque, ici un machin pour les jeunes, là-bas un truc au Liban, un truc en Jordanie, un truc partout. Et donc je voudrais dans un premier temps rassembler pour vous ce que j'ai mieux compris de la mission de l'Église à travers ce travail. Et dans un deuxième temps, je voudrais vous donner quelques éléments sur la façon dont, à la lumière de ça, s'éclaire aussi notre ministère presbytéral, et enfin vous donner quelques conseils d'un frère. Donc d'abord sur la mission. Je vous le fais bref, mais au fond c'est l'essentiel de ce que j'ai perçu, compris, travaillé. Et ça, on peut en discuter, mais je vous livre mon propre itinéraire, d'autant que, je viens de vous le dire, je ne l'ai pas cherché. La première chose, c'est que la mission de l'Église, au fond, en y réfléchissant bien, c'est d'être au service de la relation de Dieu envers le monde. Je m'appuie sur ce verset de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils. Pour moi, c'est déterminant. Ce n'est pas Dieu a tant aimé l'Église qui s'est arrangé pour ceci ou pour cela. C'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils. Et c'est une relation d'amour. Et au fond, la mission de l'Église, c'est d'être au service de l'amour dont Dieu aime le monde. Et c'est pour ça qu'elle ne cesse d'inventer la façon de traduire pour le monde, à chaque génération, cet amour qui vient de Dieu. Vous comprenez que comprendre ainsi la mission, c'est être amené à, comme toujours d'ailleurs, à un travail de conversion qui est essentiellement un travail de décentrement. Ça veut dire que si elle est au service de la relation entre Dieu et le monde, l'Église n'a pas son centre de gravité en elle-même. Ni même d'ailleurs dans une relation privilégiée qu'elle entretiendrait avec Dieu. Son centre de gravité, c'est dans la relation de Dieu avec le monde qu'il se trouve. Et ça la décentre d'elle-même. C'est ce qui explique d'ailleurs dans l'histoire que chaque fois que l'Église s'est trop centrée sur elle-même, trop préoccupée de sa propre survie, trop inquiète de la persistance de ses structures, elle s'est fatiguée, pas comme Panis, mais elle s'est fatiguée. Et il faut ce travail de décentrement. Pour moi, ça c'est très important et ça dit beaucoup de choses de notre agir missionnaire. Et on peut s'interroger, voilà, on peut s'interroger. Travailler au service de l'amour dont Dieu aime le monde. Celui qui aime la vérité ne l'aime pas seulement quand elle est très bien énoncée. Il l'aime quand il en perçoit des parcelles, fussent-elles défigurées, dans toute l'humanité. Celui qui aime la vérité l'aime dans ses petites parcelles, dont il est peut-être le seul à voir qu'elles sont là, et même si elles sont défigurées, et même si elles ne sont pas ajustées, mais elles y sont. Elles y sont. Ces semences, ces parcelles de vérité, elles y sont. Et aimer la vérité, c'est pas simplement l'aimer quand elle est bien expliquée, bien voilà. Non, c'est l'aimer comme ça. Donc ce travail de décentrement, c'est une première façon d'exprimer ce qu'est la mission de l'Église. Je pense qu'elle est très, très, très importante parce que l'obsession de la survie fatigue nos ministères. Et moi, je vois des prêtres qui deviennent tristes, parce que ça, ils n'ont pas fait ce travail-là de décentrement. Réjouis-toi de l'amour dont Dieu aime le monde et trouve, invente tous les moyens avec le peuple de Dieu pour traduire cet amour. Un exemple, j'ai inauguré il y a 3 semaines à Marseille une première maison, il y en aurait une qui était en cours de préparation dans les Yvelines, ça s'appelle la maison des plus petits. C'est une dame, Violaine, qui a compris, parce que c'était son métier, qui avait un angle mort pour des enfants de 0 à 6 ans qui sont à la fois placés parce que l'ASE a fait en sorte qu'ils ont besoin de ne plus être dans leur famille parce que la famille est dangereuse pour eux, pour diverses raisons, et d'autre part, qui sont gravement malades ou porteurs de handicap. Et pour cela, qui sont dans 2 logiques, il n'y a rien qui est prévu. Ils passent leurs 6 premières années, la plupart du temps, à l'hôpital. Et elle me disait même qu'on dit aux infirmières de ne pas les prendre dans les bras, de peur qu'ils s'habituent à une tendresse qu'ils n'auront pas. C'est fou. Alors elle a dit, elle a remué ciel et terre pendant 4 ans pour arriver à créer une petite maison. On l'a fait à Marseille, là, donc je l'ai inaugurée il y a 3 semaines. Nous avions cette maison qui est un ancien presbytère et on a fait là 7 chambres. On ne peut pas faire plus. Et ça commence. Vous voyez, ça c'est inventer la façon de traduire l'amour dont Dieu aime le monde. Et il y en a 1000, et vous en avez vous autres plein, et on pourrait les partager. C'est la première chose sur la mission. La deuxième chose, tu veux comprendre ce qu'est la mission de l'Église. 1, elle est un service de la relation de Dieu avec le monde. 2, elle est l'apprentissage d'une coopération. Parce que vivre la mission, c'est coopérer avec l'Esprit-Saint. C'est lui le premier responsable de la mission. Et nous le savons d'expérience, nous nous essoufflons chaque fois que nous voudrions souffler à sa place. Donc, laisse l'Esprit Saint, mais apprends à coopérer avec lui. C'est très important parce que dans notre histoire théologique et même pastorale, c'est sans doute pas pour rien dans l'émergence des mouvements charismatiques, nous avions trop négligé l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, c'est pas simplement le louer, c'est apprendre à coopérer avec lui. Ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui prépare le terrain. On parlait tout à l'heure de conversion, mais la conversion de quelqu'un, elle n'est pas possible sans le travail long, lointain, qui remonte à loin de l'Esprit Saint. Saint Jean-Paul II, vous rappelez, quand il arrivait quelque part, commençait par embrasser la terre. Comme pour signifier que l'Esprit Saint a déjà soufflé sur cette terre bien avant que les pas des premiers missionnaires n'en aient foulé le sol. Ça veut dire, toi qui arrives là tout pimpant pour faire ta mission, oh, réfléchis, avant toi il y avait l'Esprit Saint, et c'est lui qui a préparé le cœur de ceux auxquels tu vas t'adresser. Regardez Acte 10, avec Corneille, et il fallait que Pierre se laisse aussi lui-même préparer le cœur. Et il fallait que Corneille aussi, l'Esprit Saint ait travaillé, pour qu'à un moment, la rencontre soit féconde. Ça veut dire aussi que l'Esprit Saint, c'est pour ça que l'Esprit Saint a besoin d'une église, et d'une église de témoins, et d'une église missionnaire, c'est-à-dire une église qui ne se contente pas de se réjouir de ceux qu'elle accueille le dimanche à la messe, mais qui va chercher les Corneilles que l'Esprit Saint est en train de travailler. Et il faut des pierres pour parler aux Corneilles. Enfin, vous avez compris, ne sortez pas la phrase du contexte. Mais il faut des pierres. Il faut des apôtres. Mais qui coopèrent avec l'Esprit Saint. Et dans notre ministère, il y a quelque chose qui est merveilleux. C'est que nous, le soir en rentrant, bien sûr, nous avons les gens que nous avons vus, que nous connaissons, etc., etc. Mais il y a tous ceux pour lesquels le Seigneur nous attend demain. Et dans notre prière du soir, nous pouvons lui demander que demain, nous ne manquions pas le rendez-vous avec les Corneilles de demain. Que ceux que l'Esprit a travaillé, que nous ne manquions pas ce rendez-vous. Ça veut dire, dans ton agenda, garde de l'improviste. Si tout est rempli, comment veux-tu que l'Esprit Saint puisse compter sur toi? Je vous le dis, et je me le dis. Et je me le dis. Surtout maintenant. Mais il faut garder ça. Et vous voyez, si on va encore un peu plus loin, ça veut dire que rien dans l'histoire de celui que vous allez ou celle que vous allez rencontrer demain, rien n'est à rejeter a priori. Parce que c'est par là que l'Esprit Saint l'a rejoint. C'est par sa vie, c'est par sa culture, voire par sa religion. Pour vous en convaincre, relisez Redemptoris Missio, numéro 28, du 7 décembre 1990. Je cite, c'est Jean-Paul II, je cite, « L'Esprit Saint est présent et agissant, non seulement dans les personnes, mais aussi dans l'histoire, dans les sociétés, dans les cultures et dans les religions. » Fin de citation. Toi, ne dis pas, oh là là, son passé, il vaut rien. Et non, l'Esprit Saint est allé le chercher là. Même si c'était pour lui faire découvrir le Christ. Mais ne l'entraîne pas à négliger son passé. Et pire, à le mépriser. Apprends-lui que le Christ apporte toute nouveauté en s'apportant lui-même. Mais que cette nouveauté a été préparée par le travail de l'Esprit. Si je vais encore un tout petit peu plus loin, Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres ton cœur, je ferai chez toi ma demeure. Dans la rencontre dans laquelle est possible une conversion, tout se passe comme si c'est l'Esprit Saint qui, de l'intérieur, avait travaillé la serrure pour qu'elle s'ajuste à la clé. Mais c'est l'apôtre qui porte la clé. Vous voyez ? Vous voyez ? Cette profondeur dans cette rencontre, c'est toi qui permets à la serrure de s'ouvrir parce que tu as la clé. Mais c'est l'Esprit Saint qui a travaillé de l'intérieur la serrure pour qu'elle s'ajuste à la clé. Moi, je me suis dit, peut-être c'est pour ça que Saint-Pierre, il est toujours avec les clés. Mais c'est ça. La mission, c'est ça. Coopérer avec l'Esprit Saint. Et du coup aussi, ça te libère. Qu'est-ce que tu veux ? Ça te libère. Des fois, on croirait qu'il faut aller vite, là, parce que cette personne, elle n'est pas loin, là, pour le catéchuménat, et puis ça traîne. Mais laisse faire l'Esprit. Parfois, tu comprends, toi, dans ta prière, que l'Esprit a besoin que tu donnes le petit signal qui va aider cette personne à franchir la marche. Et en parlant de marche, vous le savez, dans notre ministère, on passe notre temps à ajuster, pas seulement les clés et la serrure, mais à ajuster les marches pour que chacun puisse monter. Combien de fois on fait ça ? De diminuer la hauteur des marches pour que on puisse les gravir. Combien de fois on fait ça ? Et c'est tellement beau dans notre ministère que de faire ça. C'est pour ça, qu'est-ce que vous voulez ? On n'est pas des douaniers de l'au-delà. On n'est pas des gens qui mettent le visa pour ou contre le salut. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Dieu. Mais on est des gens qui aménagent l'escalier, qui s'occupent des serrures. On est des jardiniers qui vont chercher les petites fleurs, pas simplement les beaux parterres des jardins français, mais les petites fleurs des caniveaux, celles qui poussent sans que personne ne y ait mise, mais qu'il faut arroser, parce qu'elles viennent du bon Dieu. La mission, c'est le service, un service de l'amour dont Dieu aime le monde, et ça, ça nous décentre. La mission, c'est un apprentissage, l'apprentissage d'une coopération avec l'Esprit Saint. Et ça, ça nous transforme aussi, parce que l'Esprit Saint, un jour, c'est avec toi qu'il a fait ça. L'Esprit Saint, un jour, c'est ta serrure qu'il a adoptée. L'Esprit Saint, un jour, c'est un autre qu'il t'a fait rencontrer pour que tu progresses. L'Esprit Saint, un jour, c'est à un autre ou une autre qu'il a confié d'aménager l'escalier pour que tu puisses monter. Ne regarde pas les autres de haut. Ce que tu fais pour eux en coopérant l'Esprit, tu reconnais que c'est ce que le Seigneur a fait pour toi, par son Esprit. Et ça aussi, ça nous fait du bien. Nous aussi, nous sommes destinataires de ceux que nous voudrions annoncer. Et nous restons destinataires. Il n'y a rien de pire, il n'y a rien de pire. Dans une rencontre pour laquelle on met tout notre cœur parce qu'on sent qu'il y a une conversion qui est à la clé, il n'y a rien de pire que de ne pas montrer que nous-mêmes sommes encore en travail de conversion. Que pour marcher, pour avancer, pour être effective, la conversion de l'autre et la mienne vont de pair. Si vous allez vers l'autre comme quelqu'un qui, lui, n'a pas besoin de se convertir parce que ça fait tellement longtemps qu'il est converti. Si vous allez vers l'autre en lui donnant l'évangile comme si pour vous, ça n'était pas encore cet évangile qui était source de conversion pour vous, alors comment voulez-vous que ça marche ? Si vous enlevez ça, c'est de la propagande. Et si c'est de la propagande, ça n'est plus de la mission. Il faut que nous restions bien destinataires, nous-mêmes, de ceux que nous avons, non pas la prétention, mais la mission d'annoncer. Donc, un service. Deux, l'apprentissage d'une coopération. Et trois, la mission, pour la définir, c'est un accompagnement. Un accompagnement. J'ai été très marqué, ça a été décisif pour moi dans toutes ces années, par un petit texte qui se trouve aux pages 186 et 187 d'un livre de Joseph Ratzinger, publié en 1967, qui s'appelle « Le nouveau peuple de Dieu ». Les deux derniers chapitres, je vous les recommande, portent sur la mission. Et le passage que je voulais vous donner dit ceci. Je cite à peu près parce que je raccourcis. Il dit, la mission consiste à accompagner la marche de Dieu vers les peuples du monde. Celui-là, je vais vous le donner en entier parce que ça vaut la peine. On était mis de côté ce matin, le voilà. Il parle de... Voilà, regardez, vous allez voir, c'est merveilleux. Quand on comprend ça, me semble-t-il, hein, on progresse. Je cite. « Ce message en route vers les peuples, nous l'appelons Église. » Oh, oui, quelle belle définition. « Ce message en route vers les peuples, nous l'appelons Église. » De ce rejet du message qui le rendit sans patrie et le força à être en route, naquit la mission qui coïncide ainsi en un sens très profond avec l'Église elle-même. Vous voyez ? Du rejet du message qui le rendit sans patrie et le força à être en route. Oh, mais c'est merveilleux pour nous, parce que nous, le rejet, et on le connaît, on en fait les frais, on sait ce que ça veut dire. Et parfois, on se le prend comme si c'était pour nous. Mais t'inquiète pas, du rejet du message, depuis le début, c'est pas toi qui vas faire en sorte qu'il n'y ait plus de rejet. D'ailleurs, sinon, ça n'irait pas. Du rejet, de ce rejet du message qui le rendit sans patrie, et le força à être en route, naquit la mission. La mission naquit comme la nouvelle figure de la promesse. Ça aussi, la mission de l'Église, il nous faut la comprendre sur l'horizon de la promesse. La promesse faite à Abraham. Un jour viendra où en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Un jour viendra où toutes les nations convergeront vers Jérusalem. Je continue, Ratzinger. La mission naquit comme la nouvelle figure de la promesse. La mission n'existe pas malgré la promesse, mais à cause de la promesse, comme son expression désarmée. Elle devrait se laisser pénétrer profondément par ce facteur de promesse qui ne supprime pas le commandement, mais délivre de toute crainte. Ça, si vous pouvez, méditez-le. La mission et la promesse. Ça nous redit quelque chose de très important, c'est que la foi chrétienne est greffée sur la foi juive. C'est que nos Bibles sont des reliures avec le Premier et le Nouveau Testament. Dans l'histoire de l'Église, souvent, on a voulu supprimer cette reliure parce qu'elle était trace d'une altérité et que nous voulions une identité. Et pourtant, c'est le mystère de notre foi que nous ne puissions décliner notre identité sans faire référence à une altérité qui lui est constitutive. Ça a commencé très tôt. Hein. Rappelez-vous, Marcion a été condamné en 144. Et c'était Marcion qui disait, mais maintenant qu'on est chrétien, pas besoin de ces trucs juifs. Il n'y a pas besoin, et même dans les Écritures du Nouveau Testament, on peut faire du tri. Condamné en 144. Mais le virus du martionnisme n'a cessé de hanter l'Église, et revenu toujours, chaque fois qu'on avait besoin, pour je ne sais quelle raison, de ne pas accepter qu'une altérité ne soit constitutive de notre identité. C'est sur l'olivier de la foi juive, comme dit saint Paul, qu'a grandi la foi chrétienne. Et voyez bien, l'un des principaux relais du martionnisme, au moment où le virus s'est réveillé, c'est en Allemagne au début du XXe siècle, en particulier avec le travail de Adolf, pas celui auquel vous pensez, hein, mais enfin, c'était un grand théologien protestant, Adolf von Harnack. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'ils appelaient, peu cher, le pauvre. Hein. C'est pas ma faute. Hein. Il s'appelait Adolf von Harnack. Et puis un certain nombre d'autres aussi qui ont donné le christianisme allemand c'est-à-dire quand même cette forme de christianisme, protestante, mais pas que protestante, qui a soutenu le national-socialisme et qui a fait tout ce qu'il fallait faire pour montrer que vraiment la foi chrétienne n'avait rien à voir avec le judaïsme et qu'il fallait justement encore l'en délivrer. Aujourd'hui, vous savez, ce ne sont pas des choses faciles à faire comprendre, hein, mais c'est très important. Si on perd cette dimension d'altérité que représente chez nous la foi juive, et on perd beaucoup, scrutant son propre mystère, comme dit le Concile, Nostra Aetate numéro 4, l'Église comprend et s'interroge sur les liens qui l'unissent avec le peuple juif. Ça, c'est très important. Et alors, du coup, le peuple juif est le dépositaire de la promesse. Et les dons de Dieu sont sans repentance. Ça veut dire que toi, chrétien, tu n'es pas le seul acteur de la réalisation de la promesse. Mais il y a une différence. Le peuple juif est chargé de croire en la promesse. Abraham, le Dieu de nos pères, etc., etc. Croire qu'un jour viendra où toutes les nations convergeront vers Jérusalem, où toutes les nations seront bénies en Abraham. Et voilà la marche des nations vers Jérusalem. Au peuple juif, il est demandé de croire en la promesse et de vivre dans le concret de sa vie les exigences de cette foi. Voilà pourquoi les 613 préceptes. Et voilà pourquoi nous devons avoir beaucoup de respect dans la contribution du peuple juif à la réalisation de l'œuvre du salut, à cause de la promesse. Mais aux chrétiens, à cette foi en la promesse, est ajouté le commandement de la mission, ce qui n'est pas le cas pour le peuple juif. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Mais vous voyez, il faut comprendre le commandement de la mission sur l'horizon de la promesse. Et ce texte de Ratzinger, je vous fais grâce des pages précédentes, mais en espérant quand même vous avoir mis l'eau à la bouche pour aller les lire, vous verrez que, justement, il conjugue la marche des peuples vers Jérusalem, c'est la part des Juifs dans l'œuvre du salut, cette espérance, et l'accompagnement de la marche de Dieu vers les peuples du monde. Voilà la mission de l'Église, qui ne boucle pas tout ce qu'est la mission, mais elle est précise, accompagner la marche de Dieu vers les peuples du monde. Je finis le paragraphe. La marche de Dieu vers les peuples qui s'accomplit dans la mission ne supprime pas la promesse de la marche des peuples vers le salut de Dieu, cette marche étant la grande lumière qui brille à nos yeux en venant de l'Ancien Testament. Elle ne fait que la confirmer. Car le salut du monde se trouve dans la main de Dieu. Il vient de la promesse et non de la loi. À nous, et c'est la dernière phrase du livre, à nous, il nous reste le devoir de nous placer avec humilité au service de la promesse, sans vouloir être plus que des serviteurs inutiles qui ne font rien que ce qu'ils doivent. Voilà, texte merveilleux. Et voyez la mission, le service de la relation entre Dieu et le monde, l'apprentissage de la coopération avec l'Esprit Saint et l'accompagnement de la marche de Dieu vers les peuples du monde. J'ajoute encore une chose sur ce dernier point. C'est qu'on pourrait dire, et il me semble qu'on peut l'affirmer, que ce travail d'accompagnement de la marche de Dieu vers les peuples du monde, au fond, permet à l'Église, ou plutôt l'invite, à réaliser sa vocation de catholicité. La mission et la catholicité, ça va ensemble. Vous voyez, catholique, ça ne veut pas dire, c'est pas l'étiquette qui dit qu'on n'est pas protestant ni orthodoxe. C'est beaucoup plus que ça. C'est une des notes ecclésiales, ecclésiologiques du credo. La catholicité de l'Église est pour elle non pas un statut, non pas un privilège, non pas une étiquette, mais une vocation. Elle est appelée à faire œuvre de catholicité. L'Église, moi j'ai appris ça en lisant le chapitre 7 de Catholicisme d'Henri de Lubac et aussi le chapitre 9. L'Église, et ça avait été pour de Lubac comme une, vous savez, comme de ces intuitions qui, un jour, vous, ça y est, j'ai compris, et après je développe ce que j'ai compris. Mais de Lubac disait, mais au fond, quand ils sont sortis du Cénacle, qu'ils n'étaient pas nombreux, l'Église était déjà catholique. Mais au fond, quand Paul faisait le tour là des villes, des bourgs et des bourgades de la Méditerranée orientale, l'Église était déjà catholique. Ça veut dire que la catholicité de l'Église n'est pas proportionnelle à l'extension de sa surface sociale. Quand on a confondu ça, on a confondu mission de l'Église et colonisation. On a confondu ça. Et on a cru qu'il suffisait d'embarquer des missionnaires au milieu des commerçants ou d'autres choses pour que la mission de l'Église soit accomplie. Et puis quand ils sont rentrés, on est rentrés avec. Je le dis parce que je suis né en Algérie. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. La catholicité de l'Église n'est pas proportionnelle à l'étendue de sa surface sociale. S'il fallait la définir, je dirais ainsi. La catholicité de l'Église, plutôt que l'extension de sa surface, c'est plutôt la conscience d'avoir reçu la charge, non pas à cause de ses mérites, mais par pure grâce, d'avoir reçu la charge d'être associé au salut du genre humain tout entier. Voilà. C'est ça sa conscience de catholicité. C'est que aucun humain n'est étranger à l'acte du salut. Et c'est pour ça qu'elle peut aller partout, même si elle est sans patrie, elle s'en fout. Tout est à elle et elle est au Christ. Tout. C'est pour ça qu'elle est chez elle partout. Et vous, dans votre ministère, soyez chez vous partout. Ne vous laissez pas enfermer comme si vous étiez le curé des cathos. Vous êtes le curé de la population de la ville où vous habitez, même Poissy, ou du village, ou du territoire. Vous êtes là pour tous, puisque vous participez à la vocation de l'Église, à la catholicité. Et quand on a compris ça, mais ça libère aussi, ça libère. Rien de ce qui est humain, comme disait l'autre, ne vous sera étranger. Moi, je ne peux pas suivre parce que j'y connais rien, mais je me réjouis que certains d'entre vous aillent faire œuvre de mission sur les réseaux sociaux, sur ceci, sur cela, avec toutes les précautions que vous savez mieux que moi, qui sont nécessaires. Mais faites-le, partout, partout. Donc la catholicité de l'Église, c'est ça. Et ça change beaucoup de choses quand on comprend sa vocation de catholicité et qu'on essaye de la déployer, qu'on essaye de la vivre. Et voyez, pour approfondir, on pourrait dire que le concept ecclésiologique de catholicité est relié au concept christologique de récapitulation. Le salut est accompli, c'est le mystère pascal. Mais le Christ n'est pas encore total tant que tout, au ciel et sur la terre, n'a pas été récapitulé en lui. Voyez Paul. Et qu'est-ce que la catholicité ? C'est la façon dont l'Église, au service de l'amour dont Dieu aime le monde, et apprenant à coopérer avec son esprit qui souffle où il veut et tu ne sais ni d'où il vient ni où il va, la catholicité, c'est la façon dont l'Église, faisant cela, coopère à l'œuvre de récapitulation. Tout doit être un jour récapitulé. Mais vous voyez que ça a du coup une dimension eschatologique. Et la compréhension de la mission ne peut pas faire l'économie d'une dimension eschatologique. Voilà aussi qui nous sort de ces coups de mou que nous pouvons avoir et que le père prédicateur a évoqué tout à l'heure. Et c'est eschatologique. Laisse le temps à l'esprit. Ne fais pas le bilan au bout de 3 mois pour savoir ce que tu as fait, pour savoir si c'est bien ou pas bien. Bien sûr, relis ce que tu fais. Mais dis-toi que c'est le temps de Dieu et que la marche de Dieu vers les peuples du monde, elle a besoin de tes jambes. Mais il y en a eu d'autres avant toi et peut-être qu'il y en aura d'autres après toi. Donc voilà, voyez ces trois thématiques que je voulais vous dire de la mission de l'Église. Le service de la relation d'amour dont Dieu aime le monde, l'apprentissage de la coopération avec l'Esprit-Saint et l'accompagnement de la marche de Dieu vers les peuples du monde selon la vocation de l'Église à la catholicité. Comme j'ai évoqué le ministère presbytéral au fur et à mesure et que l'heure a tourné pendant ce temps, je vais ne pas y revenir. J'aurais eu quelques éléments à dire là-dessus, mais je pense que je l'ai fait au fur et à mesure. Je n'ai jamais vérifié l'authenticité, mais j'avais vu ça une fois dans un pèlerinage à Assise. J'avais cru comprendre ce que je vais vous dire, et comme ce n'est qu'un conseil, vous en comprendrez la teneur, même si on n'a pas fait la vérification historique. C'est que François, invité par Claire pour visiter son petit monastère, elle lui montre le jardin et les tomates, et puis un peu les arbres fruitiers, et tout ça. Et François lui dit, ben c'est bien, c'est bien. Mais il dit à Claire, je vais te donner un conseil. Ne cultive pas tout ton jardin. Laisse un endroit où toi tu ne cultives pas. Et laisse le Seigneur faire pousser des fleurs et ce qu'il voudra. Ça veut dire, ne cultive pas tout ton jardin, sinon, comment pourrais-tu te réjouir de tout ce que le Seigneur fait pousser sans toi ? C'est un bon conseil pour la vie apostolique. Ne cultive pas tout ton champ, comme si tu voulais en avoir toute la maîtrise, comme si du coup tu te vanteras de ce qui pousse bien et tu te désoleras de ce qui pousse mal. Ne cultive pas tout ton champ. Réjouis-toi, réjouis-toi de tout ce que le Seigneur fait pousser sans toi. J'ajoute là-dessus, réjouis-toi du ministère de ton frère prêtre, qui ne fait pas comme toi. Réjouis-toi. Apprends ça, c'est un décentrement. Et vous serez en communion, non pas parce que vous signeriez les mêmes papiers, les mêmes pétitions, les mêmes... Vous serez en communion, non pas à cause des idées qui seraient exactement les mêmes, mais comme on l'a fait tout à l'heure, vous apprendrez la communion par les épaules. Par les épaules. Regarde le Christ. Regarde le Christ portant sa croix sur son épaule. Et dis-toi que, comme ça nous a été dit tout à l'heure, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et toi, avec tes frères prêtres, le premier lieu de la communion, c'est les épaules. C'est de porter ensemble les fardeaux. C'est de prier comme on l'a fait tout à l'heure, avec la main sur l'épaule. Non pas pour dire que je suis d'accord à 100% avec la façon dont tu exprimes la foi, mais à cause du Christ, je participe à ton fardeau. Le deuxième conseil, c'est celui que m'avait donné mon prédécesseur, Georges Pontier, au moment où je lui ai succédé. Il m'avait dit ceci, « Chaque fois qu'on augmentera le poids de ta charge, toi, allonge le temps de ta prière. » C'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Chaque fois qu'on augmentera le poids de ta charge, toi, allonge le temps de ta prière.
Vous venez d'entendre le ministère presbytéral dans la mission de l'Église, une conférence du cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, enregistrée le 30 septembre 2022 lors du congrès mission à Paris.